Radio Indundi Culture, le journal.
Merci de nous écouter. Bienvenue dans ce journal. Donc voici d'abord les principaux titres. Chaque déviation était taxée de 50 000 francs burundais d'amende. C'était la situation qui prévalait ce mardi matin parmi les conducteurs de bus assurant le transport en commun à mairie de Bujumbura. Le détail, c'est au début de cette édition. 150 tonnes de ferraille sont recyclées chaque jour par la société de recyclage au Burundi Fabri Metal. Une contribution énorme pour la préservation de l'environnement, selon la direction de cette société qui s'exprimait ce mardi à marge de la célébration de la Journée internationale du recyclage. Et bientôt, les fonctionnaires du ministère de la fonction publique bénéficieront des logements décents. C'est un projet qui s'étendra vers d'autres ministères, selon le ministre de la fonction publique et qui l'a annoncé ce mardi au cours d'une conférence de presse. Je termine à tous de vous présenter cette édition. Kofi Olivier Rubelinhoari assure la mise en onde.
Radio Indundi Culture.
Ce mardi matin, des conducteurs de bus assurant le transport en commun à mairie de Bujumbura qui déviaient d'itinéraire, comme mentionné sur les autocollants se trouvant sur les bus, étaient taxés d'amende allant jusqu'à 50 000 francs burundais par la police de roulage. Ces conducteurs jettent le tort aux policiers œuvrant sur le parking du centre-ville qui les oblige de faire des déviations sans consultation avec la police de roulage. Des passagers s'indignent eux du comportement des conducteurs de ces bus. Le corps de la police assure qu'ils n'étaient pas au courant de cette situation jusqu'à ce mardi. Écoutez ce reportage de Christalis Harliman.
C'est à l'aire de stationnement de bus en plein centre-ville de la municipalité de Bujumbura où des conducteurs de véhicules de transport en commun se lamentent qu'ils se voient infliger des amendes en cas de déviation sur leur itinéraire.
On peut te renvoyer dans un endroit dans lequel tu ne travailles pas et tu es obligé d'y aller sous l'ordre. Sinon, on doit payer une amende ou être emprisonné. Même la voiture peut être confisquée.
Ces chauffeurs affirment qu'ils changent d'itinéraire sous l'injonction des policiers chargés de l'ordre et de la sécurité dans les parkings de bus.
Nous ne rendons pas volontiers, plutôt par recommandation.
Selon ces passagers, ils devraient laisser les conducteurs opérer sur n'importe quel itinéraire, car ces derniers temps, le déplacement déjà est problématique suite à la pénurie du carburant qui perdure depuis quelques temps déjà.
On devrait les laisser. Quelqu'un peut prendre son itinéraire. S'il leur est recommandé de prendre une autre direction, c'est un problème, car ils ne nous font pas arriver à destination. Les chauffeurs en deviennent mécontents et ils peuvent dévier de leur itinéraire.
Ces conducteurs de véhicules de transport en commun demandent qu'ils leur soient octroyé un document justificatif et délivré par ces policiers lorsqu'ils leur demandent de changer d'itinéraire afin que des amendes ne leur soient pas infligées.
Il faut qu'il y ait une bonne communication entre les policiers pour qu'ils nous donnent au moins un morceau de papier muni de numéro comme justification pour arrêter cette amende de 50 000 car cette dernière est plus lourde pour le bus.
Sur cette préoccupation, nous avons joint au téléphone le porte-parole de la police Désiré Nduwimana qui a répondu que changer d'itinéraire c'est enfreindre la loi. Toutefois, il signale que cela reste permis lorsqu'un policier en intime l'ordre en cas de besoin. Cependant, Nduwimana précise qu'il n'a pas encore été signifié de ce différend avec les conducteurs et la police, mais qu'il compte en faire le suivi. En cas de déviation d'itinéraire, les conducteurs de véhicules de transport en commun se voient infliger une amende de 50 000 francs burundais.
Et l'utilisation de véhicules électriques au Burundi peut être une des solutions aux problèmes de transport des biens et personnes auxquels fait face le Burundi depuis quelques temps dû à la pénurie de carburant. C'est ce qu'indique le professeur d'université à l'Institut des technologies numériques à l'Université du Burundi, Fleury Nahimana. Le ministère burundais chargé des transports parle déjà d'une politique irrelative en cours d'élaboration pour le développement de ce secteur. Egide Nahayo, les détails.
Alors que le Burundi est un pays enclavé, le professeur d'université à l'Institut des technologies numériques à l'Université du Burundi, Fleury Nahimana, trouve qu'en adoptant l'utilisation des véhicules électriques au Burundi, le pays serait vers une des solutions au problème du manque de produits pétroliers qui, ces dernières années, a touché presque tous les secteurs de la vie du pays.
Les voitures électriques n'ont pas besoin de carburant, ils ont besoin par contre de l'électricité. L'électricité est produite ici au Burundi, on n'a pas besoin de devises, donc ça pourrait être une solution pour parier au manque de produits pétroliers.
La société Growth Electric Mobility, une filiale d'une société mobilière d'origine française récemment implantée au Burundi, tente de faire un élan dans ce secteur. Le ministère ayant le transport dans ses attributions reconnaît qu'avec l'adoption de la mobilité électrique, cela peut contribuer en quelque sorte au développement du pays, car, explique Edouard Nyandoui, directeur national du projet d'appui vers la transition à la mobilité électrique au ministère de tutelle, l'argent actuellement utilisé dans l'importation des produits pétroliers peut être investi dans d'autres projets de développement. Pas de véhicule électrique jusqu'ici utilisé dans le transport en commun. Le responsable de ce projet au sein de ce ministère parle néanmoins sans donner la date butoir qu'avec la mise en place des stations électriques, les véhicules de transport en commun pourront être disponibles. Jusqu'à présent, 10 véhicules électriques seulement seraient utilisés au Burundi.
Les fonctionnaires du ministère de la fonction publique vont bientôt bénéficier de logements décents. C'est une annonce du ministre Venuste Muyabaga dans une conférence de presse de ce mardi. Il a expliqué que ce projet vient résoudre pas mal de défis que rencontrent des fonctionnaires de l'État à la retraite, assurant que ce projet va s'étendre même dans les autres ministères. Écoutez ses explications.
Nous avons constaté des grands défis qui hantent la vie d'un fonctionnaire. Le fonctionnaire qui n'a pas de logement éprouve de grands problèmes quant à l'organisation de son travail et de sa vie. Mais aussi, nous avons remarqué un grand défi lorsque ce fonctionnaire prend la retraite. C'est un grand défi parce qu'il mène une vie dure qui n'est pas du tout bien préparée. Nous avons songé alors à faire un projet pouvant répondre à ces deux défis. Ainsi, pour le faire, nous avons organisé les fonctionnaires du ministère de la fonction publique en une coopérative et pour effectivement exécuter ce projet pilote qui après sera étendu à d'autres ministères car aussi il y a des fonctionnaires qui éprouvent les mêmes défis. La coopérative a été déjà mise en place. Dans un premier temps, il est prévu de construire 400 maisons ici à Bujumbura et 200 à l'intérieur. Comme je l'ai signalé, c'est un projet pilote. Il va par après s'étendre à d'autres ministères et dans d'autres provinces après ce premier projet.
Radio Indundi Culture.
Radio Indundi Culture poursuivra cette édition. La société Fabri Metal œuvre au Burundi dans le secteur du recyclage des ferrailles. Recycle par jour 150 tonnes de ferraille en 220 tonnes de produits finis. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale du recyclage célébrée ce mardi, Lydie Marlène Ndabashika, chargée du marketing et de la vente à la Fabri Metal, évoque des défis actuels de la pénurie des carburants dans la collecte des ferrailles à travers tout le pays. Elle indique que le recyclage est une pratique très importante, y compris pour la préservation de l'environnement. Je vous prie de l'écouter.
Aujourd'hui, nous produisons 120 tonnes par jour de produits finis et nous utilisons 150 tonnes de ferraille, de matière première. Donc, comme produit fini, par mois, nous produisons plus ou moins 3000 tonnes. Et d'après nos études du marché, le Burundi a besoin à peu près de 2500 à 2800 tonnes par mois. La plupart, le maximum, nous arrivons à les collecter parce que nous avons des fournisseurs un peu partout dans le pays. Le défi, c'est le carburant, parce que s'il n'y a pas de carburant, les fournisseurs ne peuvent pas nous ramener la ferraille. Le recyclage de la ferraille, qui constitue la base de notre production de fer à béton, présente de nombreux avantages pour la planète et pour la communauté en protégeant l'environnement. Et comment cela? En réduisant la dépendance à l'extraction des matières premières, contribuant à la conservation de nos ressources naturelles. De plus, le recyclage limite les déchets métalliques et la pollution liée à l'exploitation de ces ressources naturelles, ce qui aide à préserver l'environnement. Il crée également des opportunités économiques en générant des emplois dans la collecte, le tri et le traitement des métaux recyclés, tout en renforçant les industries locales comme la nôtre. En transformant la ferraille en produits solides et fiables, nous bâtissons des infrastructures durables et soutenons un avenir plus responsable pour les générations futures.
Et en ce qui est des doutes sur la qualité des produits finis que certains évoquent, Lydie Marlène Ndabashika fait savoir que le métal fabriqué par le Fabrimétal remplit les normes nationales et internationales de qualité. Elle explique que chaque étape de fabrication est analysée sans oublier le tri des ferrailles pouvant être recyclées avant tout processus de recyclage. Encore une fois, écoutez Lydie Marlène Ndabashika, chargée du marketing et de vente à la société Fabrimétal.
Pour la petite histoire, beaucoup de personnes, beaucoup de nos visiteurs viennent ici et nous disent, ils sont étonnés parce que en venant ici, ils disent c'est le fer à béton qui a été fabriqué en sous-stomate. Mais lorsque nous leur expliquons tout notre processus de production pour l'assurance qualité, nous commençons par le triage de la ferraille que les fournisseurs nous ramènent. Après, nous avons la ferraille de qualité que nous allons faire fondre dans notre haut fourneau. Notre haut fourneau est doté de laboratoires qui s'assurent de la qualité du métal liquide que nous avons. Le métal liquide est transformé en billettes, en lingots. Et ces lingots, nous prélevons sur ces lingots aussi pour voir la qualité. Et aussi, nous avons deux laboratoires qui s'assurent de la qualité des produits finis. Donc, c'est tout un processus que nous avons pour que nous ayons l'assurance de la qualité. Mais aussi, nous sommes certifiés par la BBN, certifiés par ISO à l'international.
Il faut un contrat indéterminé pour un travail durable. C'est ce que dit l'avocat burundais Grégoire Bagorikunda qui s'exprime à propos du litige qui oppose la mairie de Bujumbura et des percepteurs d'impôts et taxes engagés depuis 2021 par la mairie de Bujumbura qui réclame actuellement des contrats. Pour lui, ce litige devrait faire objet du dialogue d'entente entre ses employeurs et la mairie. À défaut, la partie lésée peut saisir le tribunal de travail. On l'écoute.
D'abord, disons qu'il y a deux formes de contrat. Le contrat à durée indéterminée et le contrat à durée déterminée. La forme normale et usuelle, c'est le contrat à durée indéterminée. Mais il existe des contrats à durée déterminée. Il n'y a pas de jour, il n'y a pas de mois. Il suffit que le travail à exécuter soit précis et qu'il ne soit pas durable. Car le travail est durable, il faut absolument recourir à un contrat à durée déterminée. Sinon, le travail est précis pendant un temps précis. Il suffit que le travail à exécuter soit bien précis et qu'il soit délimité dans le temps. Il peut être intemporaire. Quand le travail devient permanent, un emploi durable, ça devient absolument un contrat à durée déterminée. D'après ce que j'entends, la perception des tâches est un travail permanent. Dans ce cas-là, l'entrée en relation avec l'employeur passe par la conclusion d'un contrat à durée déterminée. Mais s'il s'agissait d'exécuter un travail précis pendant, disons, un mois ou deux, et que le contrat le précise bien qu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, c'est valable. Il doit s'adresser à son employeur, lui faire constater que le travail qu'il fait est un travail durable, et dans ce cas, lui demander de passer un contrat à durée déterminée. Si la situation n'est pas résolue au niveau de l'employeur et du travailleur, il faut s'en remettre au tribunal. Le tribunal de compétence et le tribunal du travail.
Radio Indonésie Culture, Chronique Santé.
La chronique santé que notre rédaction vous propose chaque mardi. Aujourd'hui, nous parlons de l'endométriose qui est une maladie caractérisée par un développement d'un tissu semblable à la muqueuse utérine en dehors de l'utérus. La gynécologue Vestine Nyonsenga Toyota signifie que l'endométriose n'est qu'une maladie chronique et regrette que cette pathologie reste moins connue. La chronique santé de ce mardi est signée Jean de Dieu.
La gynécologue Vassine Nyosenga Toyota, parlant de l'endométriose, commence d'abord par préciser que cette maladie apparaît dès la puberté. et jusqu'à la ménopause. C'est donc une maladie chronique.
Il y a beaucoup d'interrogations là-dessus. En soi, c'est une maladie qui est chronique. La femme vit avec. Ça peut commencer dès la puberté, dès les premières règles jusqu'à la ménopause.
Il note également que cette maladie se caractérise par le développement d'un tissu semblable à la muqueuse utérine en dehors de l'utérus.
Il s'agit d'un développement du tissu semblable à la muqueuse utérine en dehors de l'utérus.
Cette muqueuse hors de l'utérus endommage les cellules et crée une inflammation chronique.
En soi, quand on a cet tissu à d'autres endroits, ça va entraîner un phénomène d'inflammation qui est chronique, qui va même aller dans la circulation sanguine, qui va expliquer la localisation de ces tissus à plusieurs endroits.
Parmi les autres facteurs à l'origine de l'endométriose, on trouve la génétique avec une probabilité plus élevée qu'une mère déjà touchée transmette l'endométriose à l'une de ses filles.
Et il y a même beaucoup d'autres facteurs immunologiques. Il y a la génétique, par exemple, une mère qui a l'endométriose, une de ses filles serait exposée à développer cette maladie et qui est essentiellement liée avec le cycle menstruel.
Pour une femme atteinte d'endométriose, les symptômes qui apparaissent lors de la ménopause disparaissent.
Ce qui fait qu'au moment de la ménopause, les signes de la ménopause disparaissent. Environ une fille sur dix, une femme et fille en âge de procréer, à l'échelle mondiale selon l'OMS en 2024, présenterait cette maladie.
Selon la gynécologue Vastine Nyosenga Toyota, l'endométriose est une maladie encore peu connue, alors qu'en s'appuyant sur les données de l'Organisation mondiale de la santé, une femme sur dix en âge de procréer est déjà touchée par cette maladie. Dans notre prochaine chronique santé, nous parlerons des comportements adoptés pour prévenir la maladie ainsi que des traitements appropriés.
Merci à Jean de Dieu Nahiman. Ainsi s'achève cette édition. Merci à vous tous d'avoir suivi. Merci à Kofi Olivier Louberinwali qui assurait la mise en onde de ce journal. Vous était présenté par Jota Milatouzi. Restez branchés sur les zones de la radio. Une culture, les émissions continuent.